Présentement au studio Romarin, voici Fondrant.
Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements La Pierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animé par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute!
Salut les gars!
Salut! Salut.
Comment ils vont?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien, merci. Gros invité aujourd'hui pour le podcast?
Ouais.
Okay. On s'est pratiqué là, pendant nos invités. On a reçu la présidente des agricultrices du Québec. On a reçu le président de la Fédération de la relève agricole du Québec. Mais là, je pense qu'on...
Un step.
Un autre step de président.
Prochaine fois, ça va être premier ministre.
Okay. Président des États. Oui, Martin Caron, le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec.
Oui.
Super, super content qu'on a réussi à s'adonner pour qu'il vienne au studio en plus. Là, parce que je pense que cette année, ça a été un peu mouvementé, a été un peu occupé, Martin, là, fait que, c'est dans la normale, là, d'après moi. Là.
J'ai aucune idée.
Avec les manifestations pis tout.
Doit être un peu plus... Doit être occupé pareil.
Oui, c'est sûr. Ça doit être sa plus grosse année de mandat. Ouais, fait que, non, vraiment content de le recevoir, fait que
on a pu réussir à s'iduler. Ouais, c'est savoir, ça. Tu sais, ouais. Son horaire est chargé.
Il est très occupé, même là... Il s'en vient, là, mais il était à LCN, il passait une entrevue là à LCN, juste avant nous autres, fait qu'il fait de la route.
Il s'est pratiqué au moins,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il va...
Ben, c'est comme quand on avait reçu le président de la Fédération de la relève, il venait de faire Tout le monde en parle,
ouais.
Ouais.
Et il revient de faire de LCN, fait que
ouais,
les gars se pratiquent avant de venir ici.
Il se réchauffe.
Ouais. C'est bien.
Il regarde son...
on devrait peut-être faire pareil.
Wow! Ouais, c'est ça. Mais alors, super content de le recevoir, Martin. On va parler de lui un peu, mais aussi de ce qui s'est passé cette année dans l'agricole, voir comment que l'UPA a fait réunir beaucoup de producteurs et productrices un peu partout au Québec pour mettre la pression sur le gouvernement, qui a fini que le gouvernement a déployé un aide pour les agriculteurs et agricultrices.
Es-tu prêt à recevoir nos questions, tu penses?
Je pense qu'il est habitué à savoir les questions.
Il s'attend-tu à avoir des bonnes questions ou il s'attend à du small talk?
Oh, ben, tu sais, nous autres, c'est pas...
C'est pas les enjeux
politiques. On le punk pas dans un coin.
Ouais, c'est ça, on l'accotera pas au pied du mur, là, mais... non, c'est sûr qu'on va être du fun avec, puis c'est un passionné, puis... Tu sais, on dit tout le temps, là, faut être passionné, là, dans l'agriculture, pour faire de l'agriculture, mais là, tu es dans l'agriculture, t'as ton entreprise agricole, puis en plus, tu t'impliques. À l'UPA, faut que tu sois doublement passionné. Parce
dans le fond, lui, il représente tous les agriculteurs là,
ouais,
au gouvernement.
Mais c'est extrêmement de temps là,
oh oui.
que tu donnes pour, comme tu viens de dire, pour tous les agriculteurs et agricultrices du Québec. Là. Fait que, ça prend du gâte, ça prend de l'énergie, ça prend, en plus de tirer les vaches chez vous, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
Mm.
Fait que, en plus, l'UPA, ben, cette année, ils fêtent leur 100 ans.
100 ans.
Ouais. Fait que ils ont fait quelque chose pour célébrer ça.
C'est de même que t'amènes ça, tu sais?
Ouais, c'est de même que j'amène ça.
Bon. OK. Ben aujourd'hui, on va boire de la Fondrant.
Un petit peu.
Non, mais ben, on va boire aussi du cid.
Ouais.
Du cid spécial 100 ans de l'UPA. C'est fou pareil, hein? C'est la cidrerie Domaine Hébert qui fait le cid Carvaillant pour la 100e édition spéciale 100e de l'UPA.
Mm-hmm.
Fait qu'on va boire un cid aromatisé à la gadelle. Qui est vendu dans toutes les maxis du Québec.
Mmh,
ouais. Mais quantité limitée, fait que ça se peut qu'il y ait des places qu'il n'y en ait plus. Mais...
Ouais. Ils ont fait une grosse batch, mais on est...
C'est sûr. C'est tellement populaire. Que...
C'est, ça doit. Parce qu'on va y goûter.
Ben, c'est sûr.
On est-tu prêt?
Go!
Fait que Dan, j'ai une question pour toi.
Ouais? C'était pas écrit, ça?
Non, ouais. Je t'ai pogné, là.
Ouais.
Bon, l'UPA fête ses 100 ans cette année. Mais ça s'est pas tout le temps appelé l'UPA, ça s'appelait au début l'UCC.
L'UCC.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'UCC?
L'Union des Country Canadiens. Je sais pas.
Ah, t'es proche? L'Union catholique des cultivateurs.
C'est bon. Ça devait pas être en 2010, certain, ça.
Non, t'es un petit peu avant ça. Ouais, non, on voyait comment l'Église était fort. Hein,
dans c'est le sûr. Tous les cultivateurs étaient catholiques.
Ouais. Ouais. Mais d'après moi, beaucoup de monde au Québec était catholique dans ces années-là.
Ouais. Fait que...
Il y a 100 ans, d'après moi.
Mais c'était en quelle année que ça a switché le nom?
Dans les années 70.
Okay. Fait que, ouais, l'Église était pas mal présente encore.
Il y a eu des réformes, puis il y a eu de pas mal d'affaires dans ces années-là. Fait que.
Je comprends pourquoi ça a changé de nom aussi.
Ouais, à un moment donné, c'est...
Ouais, c'est ça.
L'Union des producteurs agricoles, ça marche mieux que...
Ouais, un peu.
Ben, catholiques, c'est pas tous les producteurs qui sont catholiques. Ouais. Puis cultivateurs, c'est pas tous les agriculteurs qui aiment se faire appeler cultivateurs.
Ouais, c'est ça.
Des fois, ça peut être un petit peu péjoratif, mais en tout cas, chacun sait.
C'est ça. Fait que, ouais, fait que, tu sais, elle a été importante puis décisive, là, dans toutes ces années-là, là, l'UPA, ça a rallié beaucoup de monde, ça a rallié aussi dans temps de crise, comme qu'on a vécu cette année, en 2024, ça a rallié beaucoup de monde pour donner de la pression puis pour que les choses changent.
C'est ça, ça a fait bouger les choses pour du bon.
Tu sais, dans tous ces 100 ans-là, il y a eu de forcer le gouvernement à établir un système financier pour les agriculteurs. Il y a eu la loi de la protection du territoire agricole dans ces années-là aussi, que l'UPA a travaillé fort pour ça. Il y a eu un paquet d'affaires. Là. Puis on va en parler avec Martin. Là. On va lui demander les points marquants de l'UPA dans toutes ces années-là. Là. Fait que, on est-tu prêt à le recevoir?
Je pense que oui. Fait, les gars.
C'est parti.
Martin, il est où, lui?
Ouais, il est où, Martin?
Ben Martin, on pouvait pas avoir deux Martins, sinon ça serait ben trop mêlé. Fait que on lui a dit d'attendre dehors.
OK.
C'est bien logique.
Fait que là, on reçoit à la place Martin Caron, le président de l'UPA.
On a posé Martin. Salut Martin.
Salut.
Hey, en partant, on se voit ou on se tutoie?
On va se tutoyer.
OK, parfait.
Quand même encore jeune, puis j'ai été membre de la relève, même si ça fait quelques années.
C'est bon. Ben merci beaucoup d'être venu au studio pour faire un épisode avec nous autres. C'est vraiment apprécié, là, tout le chemin que tu fais pour venir. Là.
Ben, ça fait plaisir. Vraiment, on s'était croisés dans une des manifs.
Ouais,
à Saint-Hyacinthe,
ouais. Entre autres. Non, c'est ça, c'est de trouver un temps pour s'adonner tout le monde ensemble, mais vraiment content de te recevoir. Fait que... Si tu veux te présenter pour le monde qui écoute pas les nouvelles ou
Martin Caron, je suis président général de l'UPA, mais avant toute chose, j'ai une ferme laitière de céréales à Louisville, en Mauricie. Je suis avec mon épouse Chantal Tourigny. J'ai mon garçon Marc-Antoine qui est sur la ferme avec moi. J'ai aussi une fille, ma fille Elisabeth, qui n'est pas sur la ferme avec moi, mais qui est plus, disons, sur d'autres projets qui travaillent, mais a quand même un projet agricole. C'est okay. On regarde quelques petites affaires. Qui sait, un jour, elle sera peut-être agricultrice. Ceci étant dit, dans la ferme, ça s'assure naturellement vaches laitières. On a des hostés New Jersey. On a côté 250 hectares qu'on cultive à peu près. Là-dessus, on fait du maïs, du soya, du foin naturellement. On fait de l'âge brassicole avec des microbrasseries alentour. On a quand même 8 microbrasseries qu'on fait. Ça fait des années que je fais ça. Un âge agri-nature, on n'utilise pas de pesticides, pas d'engrais.
Okay.
Ça, c'est quelque chose qui est bon. D'ailleurs, mon gars étudie pour brasser de la bière parce qu'il y a un intérêt à voir ça. Je ne sais pas si c'est pour boire la bière ou vraiment qu'on cultive de l'âge brassicole, mais c'est intéressant, c'est des marchés de proximité. Puis on fait aussi, comme marché de proximité, ben, du blé de consommation humaine aussi.
Okay.
Qui est utilisé. Puis ensuite de ça, bon, on fait des légumes de transformation, des haricots qu'on fait aussi sur les terres. C'est qu'on aime beaucoup quand même à diversifier au niveau de l'agriculture. Puis naturellement, ben, ça fait des années que j'étais impliqué, mais tout a commencé pour moi, comme vous autres aussi, dans la relève agricole. C'est que moi, j'ai commencé comme président de la relève agricole. J'ai été administrateur, puis rapidement, j'ai été président de la relève. Et aujourd'hui, ben, j'aurais jamais pensé d'être président général de l'UPA, là.
À chaque fois qu'on reçoit un président ou une présidente, c'est tout le temps ça qu'on se fait dire. J'aurais jamais pensé me rendre là.
Non, absolument. Bon.
Il ne faut jamais dire jamais. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis ton maïs à la ferme, tu le consommes. Est-ce que tu consommes tout ce que tu produis?
On le consomme. On fait du maïs dans le silage. On le consomme, mais on en vend. On en vend aussi. Là, on vend peut-être 280 tonnes par année de maïs, entre autres. Là. Le soya, c'est tout vendu. Ça que, comme je disais, l'orge brassicale, c'est vraiment... une microbrasserie. C'est un petit moulin qui est là pas bien loin. Ça qu'on transforme avec lui. Puis naturellement, les légumes de transformation, mais c'est avec Norterra qu'on fait. Okay. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Puis j'aime ça parce que dans les rotations de culture, tu vois, quand tu vas avoir, exemple, de l'engrais vert ou des plantes abri, ou même peut-être aller avec du blé d'automne, on n'a jamais trop essayé de blé d'automne, mais on va possiblement essayer d'en faire cette année. Là. On a commencé ça, puis en plus de ça, je vous dirais, c'est qu'il y a de l'âge d'automne. Mm-hmm. Il y a quelques producteurs qui ont commencé ça, c'est que ça aussi, ça m'intéresse peut-être d'essayer. Là, on m'a dit, tu sais, il commence peut-être un petit 10 hectares, là, peut-être pas trop gros la première année, mais il commence à avoir des cultivars. C'est intéressant parce que quand tu n'utilises pas, par exemple, des pesticides ou d'autres intrants, ben il faut que tu t'occupes au niveau de toutes les mauvaises herbes. Ouais, c'est que c'est quand tu produis ça à l'automne, c'est le gain que tu peux faire que ça pousse assez rapidement. Sinon, ben présentement, qu'est-ce que je fais? J'utilise des peignes. Ça, je suis capable de comprendre nos producteurs bio, là. Quand ils disent c'est tout leur crage, là, puis OK, là, c'est là, faut t'aille passer ton peigne ou ta houe.
C'est pas donné.
N'importe quoi. Non, c'est ça, là. Ça que... Pour ça, moi, j'ai à peu près une vingtaine d'hectares là, que j'ai en âge brassicole. Okay. Mais là, c'est quand même prenant. Il faut suivre ça de près.
Fertilises-tu un peu avec tes fumiers pour ton
orge? Oui. Puis c'est qu'on y va souvent sur des retours de soya. C'est qu'on a l'azote qui est directement là. Puis bien souvent, c'est qu'avant ça, ben on a mis du fumier, entre autres. Là. C'est que c'est ça qu'on utilise là-dessus là, par rapport à ça. Parce qu'il faut préparer le terrain puis s'assurer que quand tu commences au printemps, soit tu fasses des faux semis ou, entre autres, faut pas être trop de mauvaises herbes. L'autre aspect aussi, haricots de conserverie, j'ai resté surpris, mais je fais du semi-direct. Parce que chez nous, c'est ça, soit travail minimum ou semi-direct, ça colle autant. On travaille pas les sols. Le labo se fait des années. D'ailleurs, j'étais dans le premier dans ma région chez nous. Mais c'est beaucoup d'autres producteurs, entre autres, dans le coin de Saint-Anne-la-Pérade, pour pas le nommer un M. Perrault, qui faisait partie d'un club agro. Parce que j'étais membre fondateur de mon club agro chez nous, mais qui nous amenait ça, là, tu sais, de dire, ben, essayez de pas labourer. Puis là, les premières années, tu sais, les producteurs disaient, OK, ils labourent pas. Puis, c'est une autre gestion, là. Ouais. Mais tu sais, là, on le voit à cette heure, travail minimum. Puis dans le semi-direct que je fais pour les haricots de conserverie aussi. Parce que c'est un avantage, surtout cette année. Puis qu'est-ce qu'on vit derrière moi? On sait qu'on a eu un gros coup d'eau vendredi passé, le 9 août.
Ouais.
Et là, regarde, je suis bien content d'avoir fait un semi-direct. Parce que si j'avais travaillé, parce que les haricots, on va semer ça à peu près vers la fin juin. C'est sûr que si j'avais travaillé mon sol, ben là, ça serait vraiment de la boîte à la surface. Ouais. Tandis que là, c'est un semi-direct, ça que l'eau a pénétré. Mais là, on a un enjeu de maladies fongiques. Il y a un risque, ça qu'il va falloir faire des arrosages là, pour les haricots. Là. Mais c'est un petit peu comme ça. Là. Je me suis beaucoup inspiré des producteurs bio. Là. Je ne suis pas producteur bio, mais en même temps, c'est de
travailler le sol.
Exactement. Puis... matière organique, c'est quand même assez important au niveau de l'eau sol. Puis un des aspects aussi, puis c'est un gros enjeu qu'on a au Québec, compaction des sols. Ça, c'est un élément là, qu'il va falloir continuer à travailler très fort. Et l'autre aspect, pour éviter cette compaction des sols, je passe des petites plaies un peu en même temps. C'est pas mal sûr que les ministères écoutent aussi un petit peu, mais tout l'entretien des cours d'eau. Ça, c'est un des aspects. On l'a vécu avec le gros coup d'eau qu'on a eu, puis on le voit. Là. Si l'eau sort pas de nos champs, ça a des impacts énormes. Puis bien souvent, ça a des impacts pour compacter ces sols-là.
Quand ça reste humide... Puis t'arrives avec la machinerie ou
absolument,
quoi,
absolument. Ça, c'est pour ça. Puis c'est différent de l'Ouest canadien. Tu sais, les terres qu'on a ici, on parle plus qu'on a de l'argile, terre lourde, tandis que là-bas, c'est des sols sablonneux, tout ça. Ça, c'est différent. Ça, qu'ici, la compaction est très importante. C'est notre type de sol. Ça, que ça, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler où est l'entretien des cours d'eau. Il faut travailler aussi sur la pesanteur de nos machineries. Ça aussi, c'est un gros enjeu. On pense d'aller plus vite. Mais en même temps, on compacte nos sols. Là. Ça, c'est des choses comme ça là, qu'on regarde. Puis c'est avec mon garçon Marc-Antoine aussi au niveau de la ferme. Là.
Okay. Parce que Marc-Antoine veut prendre la relève.
Ben, Marc-Antoine, il regarde, mais c'est plus le côté céréales qu'il regarde, côté végétal. Côté laitier, il suit ça présentement. C'est lui qui fait la gestion. Mais j'ai eu quelqu'un qui est venu travailler chez nous pendant un petit peu plus qu'un an. Puis que moi, c'était pour un transfert non apparenté. Puis je me disais, en 14, mais si tu ne veux pas prendre le lait, tu peux peut-être le transférer à un jeune non apparenté qui veut faire ça. Ça, quelqu'un est venu, mais je dirais, malheureux ou heureusement, tu sais, il s'est trouvé une blonde qui avait des jeunes fermes laitières.
Okay. Okay.
c'est comme ça que ça s'est résulté. Mais on continue la ferme laitière. Puis ça, c'est sûr, moi, j'ai encore une ouverture de dire, ben, regarde, s'il y a une possibilité, tu sais, là, peut-être un jeune, parce que ça, c'est peut-être un des gros enjeux, tu sais, qu'on pourra se parler aujourd'hui. Vous le vivez, vous autres aussi. Tu sais, nos fermes ici au Québec, on a 40% des fermes qui n'ont pas de plan de relève, là.
Ouais.
C'est que ça, là, c'est un, quelque chose qu'il faut adresser, là, puis il faut commencer à se préparer, à trouver des solutions.
Ouais.
Puis quelqu'un m'avait déjà dit, entre autres, dans une conférence au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, il avait dit, ben écoutez, on ne demande pas aux médecins, aux enfants des médecins, pour être les futurs médecins.
C'est vrai.
On ne demandera pas à nos enfants d'être toujours les futurs producteurs. Ça va en prendre d'autres qui viennent de l'extérieur. C'est que si c'est ça, il faut trouver des façons de faire, puis avec tous les enjeux qu'on a, c'est sûr qu'il faut être capable de trouver ça, puis d'avoir des outils. D'ailleurs, il y a un comité qui avait été mis en place, là, qu'on avait demandé ça, puis qu'on va avoir un rapport qui va être fait au niveau du Conseil général de l'UPA, là, pour plancher là-dessus, là, parce que le prix des terres est élevé, tous les enjeux sont là.
Mais... La valeur de l'entreprise, ça a monté extrêmement gros là, dans les dernières années.
Absolument.
La ferme, vient-tu d'une génération où tu l'as achetée?
Oui, ça, c'est une très bonne question, parce que je vais être bien honnête avec vous autres, là. Ça fait à peu près comme 2 ans que je viens de réaliser ça, que mes parents, c'était des non-apparentés, parce que mon père était le plus vieux de la famille.
OK.
Ça, c'est lui qui a dû quitter la ferme, ça, qui a acheté une ferme d'un étranger, qui est pas loin de la ferme de mon grand-père. Ça que moi, c'est comme la deuxième génération, mais je cultive quand même les terres de mon grand-père qui appartiennent à mon cousin par mon oncle à côté. Mais il reste quand même, tu sais, j'ai réalisé ça juste là 2 ans, en voulant dire, OK, mon père, là, c'était un inconnu, il est parti. Puis, tu sais, mes parents, quand ils sont partis dans le temps, ben mon père avait 2 jobs à l'extérieur. Puis, il s'occupait un peu de la ferme, mais c'était ma mère qui était enseignante, mais qui avait arrêté d'être enseignante, qui s'occupait de la ferme, puis il s'occupait naturellement des enfants, nous autres, parce qu'on était 4 dans la famille. Okay. Ça m'a fait réaliser, juste là 2 ans, je me disais, OK, là, tu sais, là, mes parents, comme ils disaient, ils ont commencé en bas de l'échelle. Puis quand on parlait du soutien pendant ce temps-là, tu sais, là, ils ont un jour arrivé pour arrêter le travail, mon père a arrêté le travail à l'extérieur pour être capable de vivre la ferme. C'est pour ça que quand je vois les jeunes, des fois, dire, OK, on revient, là, ça prend des jobs à l'extérieur pour être capable d'arriver, ils disent, OK, on va-tu vivre qu'est-ce que mes parents ont vécu dans le temps? Ça me semblait qu'on était rendu plus loin. Ça, c'est pas ça, là. La question était vraiment pertinente. Puis, ça, là, les gens m'ont dit, que donc, il vient d'allumer. Là. Mais oui, je viens juste d'allumer. Dans des affaires, je suis plus vite, mais ça, c'est comme j'avais pas réalisé qu'est-ce qui se passait chez nous.
Là. Ouais, c'est ça. Mais ça va être de plus en plus courant, là, c'est ça, la relève non apparentée. Si on veut que l'agriculture se continue à cette quantité-là d'entreprises agricoles, il va falloir que...
Mmh. Oui, puis des entreprises agricoles, ça, si on se compare avec les États-Unis, exemple, les autres, au niveau canadien, le Québec, on s'est maintenu sur les dernières années. On est à peu près à 29 000 quelques pourcents, là, avec 29 600 entreprises agricoles. Ça qu'on a eu des augmentations. C'était dû au niveau de l'augmentation côté acéricole, entre autres.
Okay.
Ça, là, toutes les ententes qui ont été données. Ouais. Ça qu'il y a des entreprises qui étaient parties. Il y a quelques fermes de proximité aussi qui ont été parties.
Mm-hmm.
Mais 29 600 sur 137 000, on est à peu près à 21 % des fermes du Canada. C'est 21 % c'est au Québec. Là.
Oh, ouais.
Mais on se maintient. Mais il reste quand même, ça, là, vous le savez, là, on a des enjeux financièrement.
Mm-hmm.
Même si on a des programmes qui sont là pour aider la relève, ces programmes-là n'ont pas été actualisés depuis des années et des années. Il faudrait qu'ils soient actualisés. Puis, on va se le dire, là, il va falloir qu'on ait un programme pour favoriser puis prioriser la relève. Là.
Ouais.
Parce que quand c'est le temps des terres agricoles qui sont à vendre, ça, il n'y a pas un jeune sur une valeur économique qui est capable de payer ça puis de rentabiliser ça. Là. T'sais, là, moi-même, chez nous, t'sais, là, on a regardé des terres se vendre dernièrement, puis tu essaies de faire tes calculs.
Il n'y a pas aucun calcul.
Il n'y a rien de rentable.
Ça ne marche pas. Il faut trouver d'autres outils, puis il faut éviter aussi. Puis ça, M. Lamontagne, tu as fait une consultation par rapport aux terres agricoles. Ça va être intéressant de voir jusqu'où qu'on va aller là-dedans sur l'accessibilité qu'on donne aux jeunes pour que ces terres-là soient accessibles, puis de sortir le côté spéculation des terres agricoles. Mm-hmm. Parce qu'on risque d'avoir des fonds d'investissement, puis on a peut-être même déjà quelques acheteurs plus qui voient ça comme un investissement plutôt que de vivre de l'agriculture. Là. C'est que ça, il faut trouver des façons de faire. Puis il y en a des exemples, soit en France ou en Europe, entre autres.
Il y a même Laval, là, dernièrement, qui voulait contrer ça un peu aussi.
Oui, absolument. Là, absolument. S'assurer que les terres qu'ils soient retournées. Ouais. Puis avoir une politique aussi par rapport à la location de terres, c'est s'assurer que les terres soient cultivées. Parce que dans des cas à Laval, ben, les gens laissent ça aller comme en friche.
Ouais.
Exactement. Ça que c'est. Mais tu sais, je dis pas que c'est facile. T'sais. Je n'ai parlé avec David Beauvais, puis je n'ai parlé avec Julie Bissonnette, dernière présidente, puis on continue de s'en parler. Il faut atterrir quelque chose là-dessus, puis c'est rapidement. Là. On n'a pas 5-10 ans. Les décisions, il faut les prendre.
Parce qu'il y a le temps de se passer bien des affaires encore d'ici 5-10 ans.
Que... Ah oui, absolument. Puis tu sais, là, c'est parce qu'on envoie des jeunes qui veulent le faire, là, mais comment qu'on met quelque chose en place, là? C'est que, il n'y a peut-être pas une recette magique, t'sais. Il n'y aura pas juste un modèle, il y a différents modèles, mais il faut établir, puis il faut s'assurer qu'on priorise ça,
en fait. Ouais. Avec la pénurie de logements, en plus, il y en a là, du monde qui veulent bâtir, puis élargir les villes, là, fait que c'est de plus en plus dangereux là, de perdre des terres, puis de... C'est ça, ça fait juste monter les prix des terres tout le temps. Là.
Absolument, absolument. T'sais. Des fois, on se dit, ah ben c'est entre nous autres, les producteurs, qu'on achète des terres, qu'on les paye cher. Mais quand c'est des terres voisines, tu dis, OK, tu veux acheter, c'est que ça amène une compétition. Puis en même temps, ben, il y a des consolidations parce qu'il y a des fermes, ben, il y a des enfants puis qui veulent croître un peu.
Mm-hmm.
C'est qu'il y a ça aussi qui se passe. C'est, que c'est sûr que. Mais le côté urbain, c'est un des facteurs aussi. Il faut que le côté urbain sur le développement urbain. Ou l'urbanisation, il faut que ça soit densifié, entre autres. Là. Ça, puis ça, on est juste entre nous autres, pour l'instant. Mais juste dire que voir des parkings, ça, de l'asphalte, puis tu vois un grand parking, puis que c'est pas sur étage les parkings, c'est plus acceptable, ça.
Ouais.
Nos terres sont assez, tu sais, là, ça prend des parkings multi-étages, plus petits, là. Pour éviter d'empiéter. Parce que ça, je donne un exemple comme ça, mais les édifices aussi, c'est la même chose. Là. C'est qu'il faut trouver une façon de faire, entre autres, pour diminuer cette pression-là d'urbanisation.
Ben, y a bien des villes que ça a été limité, les hauteurs de tours aussi, puis peut-être ça à voir aussi, là, qu'à un moment donné...
Oui, absolument, avoir ça, puis entre autres, d'avoir une planification par rapport à ces schémas d'aménagement-là.
Oui.
Puis... Juste, peut-être une donnée qu'il faut redire aux gens. On parle souvent de moins de 2% des terres qu'on cultive ici au Québec. Je vous mets un autre ratio pour les gens. Là. C'est 0,24 hectares par habitant ici au Québec. On est le plus bas taux en Amérique.
Okay.
Ça veut dire par les habitants, on a à peu près un petit peu plus que 8,5 millions de population ici au Québec. Mais par rapport à notre ancrage, on est le plus bas taux. Ça, quand on parle du garde-manger, là, par rapport au potentiel de la population, on est plus bas, là, tu sais, là. Ça, que l'Ontario, c'est beaucoup plus élevé que ça, puis le reste du Canada aussi, c'est beaucoup plus élevé, là. Ça, que déjà, là, notre ratio est faible par population, ça, que c'est pour ça que ça met de la pression, puis les prix sont à la hausse aussi.
Mm-hmm.
C'est sûr, ça a un impact, là. Puis il faut pas oublier, souvent, tu sais, on parle des terres agricoles, mais il faut parler aussi de nos érables.
Mm-hmm.
Nos érables, la protection de nos érables, entre autres, côté acéricole, c'est quand même un des enjeux parce qu'on a un potentiel qui est là en forêt publique. Puis des fois, le gouvernement a tendance à laisser aller l'industrie, tu sais, là, pour aller chercher ce bois-là parce qu'il est plus proche des usines. Mais ça aussi, là, faut trouver une façon de faire pour avoir un genre de plan directeur pour s'assurer qu'il y a un potentiel parce que c'est une plus-value de faire de la sériculture sur ces érables-là que de les envoyer en bois. On fait plus d'argent en les maintenant côté acéricole, ça que je pense que c'est ça. Puis là, je dis pas de plus couper de bois. Je pense qu'il y a une façon de couper du bois intelligemment. Il y a la séricoforesterie aussi qui est utilisée dans des cas comme ça. Je pense qu'on est capable de chercher du bois, mais il faut être capable de protéger ces érables-là.
Ah, c'est ça. Puis oui, exactement. Comme tu dis, c'est au fil des ans, là, c'est bien plus payant de garder nos érables. Non, c'est important. Puis c'est notre tort, là, le sirop d'érable là, au Québec.
On est des leaders, puis même si on a eu un record, c'était 238 millions de livres, il reste quand même, là, il y a du potentiel de développement des marchés. Puis on voit, on vient de sortir des Olympiques, combien de gens prennent. Entre autres, on a une médaillée du Bas-Saint-Laurent qui prend, mais il y a plusieurs athlètes. Ah, bon. Que je pense que c'est un côté sucre, puis tous les bienfaits au niveau du sirop d'érable. Exactement. Puis on a différents autres produits là, ici au Québec qu'on se doit de se faire une fierté. T'sais. On peut parler des canneberges, les bleuets aussi sauvages. T'sais. On est d'un leader au niveau des produits qu'on vend.
On dirait que tu as les deux mains dedans. Martin,
Ça fait combien de temps que tu travailles pour l'UPA?
Écoute, c'est sûr qu'au niveau provincial, j'ai fait deux mandats de vice-président, deuxième vice-président, premier vice-président, ça que j'ai eu deux mandats, donc j'ai fait 8 ans comme vice-président. Et là, je suis arrivé président, ça fait 2 ans et demi là, que je suis président. Okay. Ça que, c'est sûr que les dossiers, mais... C'est là, on vous amène l'information aujourd'hui, là, mais on a plein de professionnels puis de permanents qui travaillent avec nous autres. Mm-hmm. Puis on a une équipe de collaboration, comme aujourd'hui, je parlais avec Catherine Lefebvre des Maraîchers, les enjeux qu'elle a avec les Coudeaux, Christian Verbeck, différentes régions aussi, Sébastien Vachon au niveau du Bas-Vin aussi, qui a d'autres enjeux. C'est que, tu sais, là, on s'échange, c'est qu'on a beaucoup d'expertise là-dessus. C'est ça qui fait notre richesse ici au Québec, parce que quand on voit que ce soit au niveau canadien puis même international, on est reconnu. Puis du côté international, on est reconnu, c'est avec l'UPADI ici, Développement international. Ouais. On fêtait l'année passée 40 ans.
Ah, c'est ça.
Aujourd'hui, on est 100e au niveau de l'UPA. Mais toute cette portion-là de développement international, mais nous amène à être présents au niveau des COP sur l'environnement, sur la biodiversité. C'est qu'on est quand même unique en son genre, puis les autres provinces, quand ils nous regardent aller, tu sais, ils disent « OK, vous autres, vous travaillez vraiment collectivement.
» Parce que l'UPADI, c'est d'amener l'expertise carrément ailleurs dans des pays sous-développés, souvent. Là.
Il y a une partie d'amener ça, l'expertise, puis en même temps, en contre-échange, entre autres, c'est qu'on ramène une expertise en lien avec le côté environnement puis biodiversité.
Okay.
Présentement, on parle de projet de durabilité. Et là, l'OMA nous reconnaît, la FAO nous reconnaît aussi en lien avec ça. C'est qu'au niveau des Nations Unies, ils voient qu'en tant que UPA, avec notre volet UPADI, ben on est capable de faire ça. Puis ça nous amène ici des projets, que ce soit avec l'Agriculture agroalimentaire Canada, on a les laboratoires vivants qui sont développés ici. C'est qu'il y a une expertise qui est développée, mais je fais juste vous dire, c'est pas tout moi qui connais ça, là. Mais on a toute une équipe, puis tu sais, on s'échange cette information-là. C'est que c'est une belle richesse qu'on a, puis la diversité, là, c'est la plus grande richesse qu'on a ici au Québec. Différents modèles, puis je sais pas vous autres, mais tu sais, moi, des fois, je me fais interpeller, « Ah! » Les petits producteurs ou les gros producteurs, les modèles sont tous là. C'est ça qui fait notre richesse. Là. On n'est pas obligé de choisir sur un modèle bien précis. Les modèles, ils sont là. Mais sauf qu'on a un objectif en tant que UPA, puis ça fait 100 ans de ça, c'est de s'unir puis travailler collectivement. Parce qu'on n'a plus les moyens de partir chacun de notre côté. C'est qu'il faut trouver collectivement, travailler des solutions. Puis c'est pour ça qu'on fête le 100e anniversaire de l'UPA cette année. C'est à cause de ça, là. L'UPA, ça s'est créé, c'est les producteurs productrices qui l'ont créé, là.
Puis pourquoi ça a été créé?
Ça a été créé dans le temps, puis là, on remonte, là, c'est en
1924,
le 2 octobre. Mais avant ça, il faut réaliser qu'on a eu les guerres, entre autres.
Oui.
C'est que, si vous avez vu le film « Habiter la terre », ça le dit, les deux guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième, bien, l'agriculture a contribué à amener de l'alimentation à nos alliés au niveau de l'Europe, tout ça pour aider. Là, ça l'a créé qu'il fallait produire. Là. Il fallait produire ici au Québec. Mais quand les guerres sont arrêtées, bien là, la production est arrivée là. Puis là, on n'avait pas de prix, entre autres, pour nos denrées.
Il y avait du surplus, dans le fond.
Du surplus. Puis là, il y a eu comme une crise aussi qui est arrivée. C'est que là, ça l'a brassé un peu les affaires. Mais là, les producteurs n'arrivaient pas. Là. C'est que c'est de là qu'ils ont décidé de s'unir pour éviter de subir. Parce qu'ils subissaient, entre autres, toutes les coups durs que les gens, tu sais, payaient pas pour les prix. Cette force-là, ben, ça l'a amené à 1924, entre autres, que 2500 producteurs se réunissent à Québec arrivent là et se décident, OK, on met une organisation en place. côté collectif. Puis après ça, ça l'a déboulé, là, différents événements. Là. Puis ça, je vous regarde, vous autres, au niveau de la relève. Là. Ça, la relève, on dit, OK, la frac, qu'est-ce qu'on connaît là? C'était en 1982. Mais ça n'a pas commencé là, la frac. Là.
Non, il y avait des...
Ça a commencé bien avant. Ça a commencé en 1941, okay. Où on avait la jeunesse agricole catholique. Mais ça, me semble que je vous vois là-dedans, vous autres, dans ce temps-là.
On parlait, avant que tu arrives, on parlait de l'UCC.
Oui, c'est ça, l'UCC, là. C'est l'Union catholique des cultivateurs. Mais en 1941, c'est comme ça que ça a commencé, la jeunesse agricole. Puis c'était pour aider, pour avoir des programmes. Puis après ça, je pense que en 1960 à peu près, au début de ces années-là, ben là, ils ont changé le côté, c'était pas la jeunesse agricole, c'était la jeunesse rurale catholique. Et il y a eu une évolution, puis on a vu au niveau des agricultrices aussi, parce qu'il y a eu un droit de vote au niveau des femmes, puis dans ces années-là, là on parle des années à peu près 39, tout ça, mais dans ces années-là, bien, il y a eu une création d'une organisation, entre autres, pour les agricultrices, qui s'était mise en place pour aujourd'hui, bon, on voit la Fédération des agricultrices, ça que c'est juste pour vous dire... Le monde, collectivement, ça se travaillait.
C'était-tu les fermières catholiques?
Non, bien, dans ce temps-là, il y avait le secte des fermières qui était là, mais il y avait un lien, naturellement, il y avait un lien au niveau catholique, c'est sûr et certain dans ces temps-là. Puis là, c'était en 1972 que là, le nom a été changé. D'ailleurs, on a eu la loi des producteurs agricoles qui était en 1972. Et là, c'est là qu'on a changé de nom aussi, parce que vous comprenez, dans ces époques-là, à un moment donné, on sortirait un petit peu plus de la religion. Mm-hmm. C'est que là, il y a eu la décision d'y aller avec l'Union des producteurs agricoles. Puis avant ça, bien, il y a eu d'autres choses aussi. Il faut penser aussi en 1945, l'électrification, quand ça a commencé, là, bien, naturellement, c'était des compagnies privées qui vendait l'électricité, ça côté rural, on oublie ça, ça allait pas là pantoute, là.
Ah ouais,
c'est
que
c'est
loin.
Les producteurs qui ont décidé en 1945 de mettre des choses en place pour avoir des coopératives puis demander au gouvernement d'investir entre autres pour amener l'électrification dans les campagnes, dans les ruralités, puis ça, c'est sûr que ça allait changer, là.
Ben oui.
Ça que ça, c'est des bouts d'histoire comme ça qu'il faut se rappeler, puis de la mise en marché collective qu'on parle, tu sais, là. Encore là, ça, dans les années, si on regarde en 1958 à peu près, dans ces coins-là, 56-58, ben les plans conjoints ou la mise à marché, la loi sur la mise à marché agricole, mais là, ça s'est développé là. Puis le premier qui a fait un plan conjoint ou un office, c'était des producteurs forestiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont mis en place, c'était en 1959 ça, qui ont mis en place le premier plan conjoint.
OK.
Puis... Je n'irai pas dans toutes les autres dates, mais je vais juste vous dire, tu sais, on parle des quotas de gestion de l'offre, mais c'est à partir de ça, là, dans les années 60, ça se parlait de ça, puis c'est pas mal dans les années 72 aussi qu'on a mis en place les quotas. Puis là, vous comprenez que c'était, tu sais, au niveau fédéral aussi, mais ça avait fait des demandes. Ça, il y a beaucoup de choses, CPTOQ, la loi de la protection du territoire agricole, ça, dans les années 76-78, ça s'est parlé, puis ça... Il y a eu la création de ça. Ça que quand même des enjeux qui ont été amenés. Puis c'est pas pour rien que ça continue côté collectif, là, puis de travailler ensemble. On garde des chambres de coordination qu'on appelle. Bien, on a nos producteurs de serre, producteurs en serre, entre autres, qui veulent aller sur une chambre de coordination. On a des fraises framboises qui étaient déjà là, les maraîchers qui viennent de partir sur les légumes racines, nos apiculteurs qui, eux aussi, veulent trouver une façon de faire, ça, c'est sûr. Tu sais, le côté collectif, c'est important qu'il faut mettre ça en place. Là.
Ouais.
Puis ça nous amène aussi à avoir des fermes partout sur le territoire au Québec. Là. C'est ça, les gens ne réalisent pas, là, mais tu sais, là, sur les façons de faire au niveau collectif ou dans le lait, ben, si on se répartit ou même dans le port, la mise en marché, tu sais, là, si on n'a pas ça, ben chacun paierait le transport. Ça que vous comprenez, les usines de transformation qui sont centrées, il n'y aura pas des producteurs si loin que ça. D'ailleurs, au niveau de l'Europe, quand ils ont décidé d'enlever quota, ben c'est ça que ça a
ça,
fait.
Ouais.
Les producteurs sont restés, c'est ceux qui étaient très proches des usines de transformation. Ça que ça, c'est quand même une richesse qu'on continue, là, puis il faut les réaliser, malgré qu'on a quand même des enjeux, puis je sais qu'au niveau de nos régions, on parle des régions périphériques, peut-être un petit peu plus éloignées, il reste quand même, il y a des coûts de transport un petit peu plus élevés, puis il faut trouver une façon de faire, là. pour aider ces entreprises-là, là, parce qu'il y a du démarrage, puis il y a un grand potentiel qui est là. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a des belles réussites aussi. Je suis allé, il y a 3 ans, en Gaspésie, tu sais, manger de la cantaloupe puis du melon d'eau en Gaspésie. J'en revenais pas, là. Puis je salue Étienne Goyer, là, qui est là, puis qui... Écoutez, je suis allé goûter ça, c'était excellent, là, tu sais, je veux dire... Qui aurait c'est pensé ça, tu sais. Ça que c'est des sites tunnels, puis ils font différentes choses. Ça, c'est ça qui est intéressant. Je pense que ça se développe, mais il faut avoir des outils ici pour être capable de développer.
Même après 100 ans, les enjeux, puis l'importance de l'UPA est encore là. Puis
oui, oui.
Si c'est pas plus, même pour la préserver.
Bien, vous l'avez vu, ça, toutes les 17 manifestations qu'on a faites, entre autres, c'était un peu pour ça, là, la mobilisation. Je pense qu'on le sent, puis je pense qu'on était là aussi. Le premier geste, là, c'était pour aider la relève agricole. Là. Parce qu'on le sait, avec l'endettement qui était plus élevé, les taux d'intérêt qui avaient augmenté, c'est ça la base. Là.
C'était dur. Là.
C'est les premières années. Habituellement, c'est les 5 premières années, mais plus ça va, plus c'est les 10. Puis on parle des jeunes, puis j'ai des entreprises aussi, des hommes et des femmes qui sont plus hauts que 40 ans, puis qui demandent des entreprises, puis même eux, là, c'était pas si facile que ça. Ça que je pense, c'était important de soutenir parce que, tu sais, là, on développe quelque chose, il faut pérenniser. Puis là, on va passer un petit peu nos messages aussi politiques. Mais, tu sais, là, moins de 1%. Ça, là, l'autre mois, j'étais au Yukon. C'est de la rencontre de tous les ministres de l'agriculture de chacune des provinces avec M. McCauley au niveau du fédéral. Puis là, on planifie, tu sais, là, pour. Comment qu'on peut faire pour aider les entreprises. Puis moi, je l'ai mentionné à une rencontre, j'ai dit, écoutez, là, les deux budgets, que ce soit fédéral et provincial, c'est moins de 1% du budget qu'on accorde à l'agriculture et l'agroalimentaire. Puis on parle de priorité nationale, on parle d'autonomie, sécurité alimentaire.
Ouais.
Puis les deux, fédéral et provincial, on n'a même pas 1%. Ça, je pense, ça, c'est un enjeu. Puis au-delà des mobilisations qu'on a faites, puis qu'il y a eu une ouverture du gouvernement, on va continuer parce qu'ici, il y a une politique bioalimentaire que le gouvernement et M. Lamontagne veulent mettre en place pour les 10 prochaines années. Et là, on commence à avoir une mobilisation pour avoir des publicités parce qu'on va être au cœur de ces décisions-là. Puis on veut qu'ils mettent à cœur l'agriculture puis la foresterie au niveau du Québec. Il faudrait arrêter de juste soutenir l'agriculture. Il faudrait investir en agriculture.
C'est ça, ça a tout le temps été du soutien. Puis je pense qu'en 1924, 100 ans plus tard, on dirait que la roue fait juste se répéter. Là. C'est le même message est encore là. C'est de valoriser puis de dire que hey, on veut pas juste se faire soutenir, on veut plus que ça.
Ouais.
Il faut investir dans l'agriculture si on veut rester pendant encore longtemps.
Ben oui, absolument. Puis il faut réinvestir. Puis quand on regarde ça, toutes ces démarches-là, ça nous amène. Bon, ben s'il faut prioriser l'agriculture, OK. Priorisons l'agriculture, mais est-ce qu'on peut la reconnaître? Est-ce qu'on peut être reconnu comme des professionnels de l'agriculture? Puis ça, c'est un des enjeux qu'on a parlé d'allègement, entre autres administratif, parce que plus ça va, plus qu'on a de la paperasse. Ça, il faut que ça arrête, là. Il faut être reconnu comme des professionnels de l'agriculture. Et quand tu es reconnu comme un professionnel, parce que tu sais ton métier, bien, il faut t'arrêter qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire comment faire ton métier chez vous. Puis ça, moi, je continue à me battre, puis que ce soit avec Paul Doyon puis Stéphanie Levasseur, eux autres aussi le voient. On le voit, moi, j'ai mon garçon qui est là, puis je vois toute la paperasse des affaires, puis ça, suivre des cours pour aller semer. Tu sais, là, je dis, tiens, à un moment donné, je dis, tu vas à l'école, puis le gros enjeu, pas le gros enjeu, mais le gros avantage, on a une moyenne plus élevée que les autres provinces ici avec le poste secondaire au niveau de la formation, là. On est rendu à tout près de 87-88% que nos jeunes qui vont se former côté agricole. Là, ça, plus ça va, plus ça l'augmente.
C'est des records puis, année après année d'assistance en classe. Là.
Absolument. Ça, là, puis là, tu dis, OK, non, il faut que quelqu'un vienne te dire, non, quand tu vas faire ça, tu le fais. Tu sais, à un moment donné, faut trouver. Puis je comprends qu'il y a une reddition de compte, mais mettons ça simple, la reddition de compte. Puis quand on me demande de reddition de compte, est-ce que ça peut me servir, moi, sur mon entreprise pour faire du... benchmarking, excusez l'expression anglaise, mais un tableau de bord pour me comparer, soit avec d'autres, etc., qu'on m'amène. Mais là, c'est pas ça. C'est que j'envoie des données, puis ça me sert même pas en tant qu'entreprise agricole. C'est que ça, il faut être capable de revoir ça parce qu'on n'a plus les moyens au Québec que moi, en tout cas, que nous tous, que les producteurs, qu'on envoie en tour de route sur chacun des demandes des ministères. Là. Et ça, il y a eu une ouverture au niveau du gouvernement pour alléger ça. Mais il va falloir continuer plus loin. Là. Et je sais qu'il y a des comités qui s'en viennent. Il va falloir travailler très fort.
Ouais. C'est plus au Québec qu'on voit ça que dans les autres provinces du Canada ou c'est pas mal...
C'est vrai qu'il y a une mouvance de pro-environnemental puis tout, mais c'est ça. On dirait, tu sais, c'est pas... Est-ce que ça l'aide ou est-ce que ça nuit? T'sais, ça devrait être la première chose à se demander. Ça l'aide-tu ou ça nuit, là, mm-hmm. les producteurs?
Ben, à votre question, c'est sûr, si je regarde les autres provinces, c'est bien différent. Qu'est-ce qu'on vit ici au niveau du Québec? C'est sûr, les demandes sociétales sont là ici. Les consommateurs sont là, les citoyens en demandent. Ça, il y a un petit bout, OK, tu demandes, mais est-ce que tu veux payer le prix? Ça, c'est un autre élément. Puis après ça, mais c'est de voir le ministère, comment qu'on peut diminuer. Parce que, tu sais, les demandes sont là, mais si je suis obligé de remplir différents formulaires, c'est là, puis c'est les mêmes questions qu'on me pose. À un moment donné, c'est ça, là. C'est ça qui est trop, là. Mais ici, là, au Québec, on a fait une petite évaluation, là. Les producteurs et productrices, là, durant une année, tu passes au moins 2 mois dans la paperasse. Tu sais, tes 12 mois, tu travailles, tu as 2 mois, là, c'est juste remplir la paperasse que tu as à faire, là. Puis plus ça va, ben plus qu'on t'en demande, puis ouais. plus ça augmente. Puis si tu n'as pas le temps de le faire, ben tu engages des professionnels. Puis malheureusement, ces professionnels-là, tu sais, on peut parler des agronomes, on peut parler des ingénieurs ou des biologistes, ben on aimerait mieux les avoir dans nos champs, sur nos fermes, pour nous aider à avoir de la croissance, puis à faire face aux changements climatiques, à lutter contre les changements climatiques. Plutôt qu'à remplir un document qui amène une base de données au niveau du gouvernement, mais que nous, ça ne nous sert pas, c'est que ça. Il y a un changement, puis on le vit en Europe aussi, le ras-le-bol qui ouais. était en Europe, c'était un peu ça aussi. Tu sais, on remet des conditions, mais OK, y a-tu quelqu'un qui se soucie que nous autres, on veut vivre, là? Tu sais, là, on veut pas survivre, là. On voudrait juste vivre, là, puis que je sois reconnu, puis tu sais, là, je fais juste vous dire, aujourd'hui, j'étais avec des journalistes, là. Je leur montre un champ de blé, ça qu'ils ne savaient pas que c'était un champ de blé, un champ d'haricots. Puis là, je les explique comment, tu sais, qu'avec le blé, comment je peux voir s'il est prêt. Mais tu sais, il y a, tu sais, les personnes, il y avait une trentaine d'années, mais ils n'avaient jamais su ça, là. C'est que, tu sais, je me dis, tu sais, là, c'est je pense qu'il faut valoriser, il faut expliquer nos affaires. Moi, j'ai quand même confiance. Puis tu sais, nos citoyens consommateurs, ils demandent des affaires, puis c'est bien qu'en règle qu'ils en demandent. Mais il faut être capable d'amener la formation, puis il faut être capable aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Mm-hmm. Là, c'est ce bout-là. Là. Quand les gens, tu les expliques qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi tu utilises tel et tel produit, je pense qu'ils sont conscients. Puis vous le savez, là, vous travaillez en agriculture, là. Nos terres agricoles, nos animaux, là, ça, c'est notre richesse, puis c'est nos bébés. Là, je veux dire, moi je suis né sur la ferme chez nous, là. Je veux dire, tu sais, là, c'est là, là. Je vois des vélos, je vois des veaux, là. Je veux dire, tu sais, j'ai encore la conscience quand j'étais petit gars, là, que j'étais dans le parc avec le veau, tu sais, mais c'est ça, là. Je pense qu'il faut être capable de ramener ça. Puis il va falloir continuer à passer le message. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue une mobilisation pour la prochaine politique bioalimentaire, puis qu'on va expliquer aux gens, regardez, placez-nous au cœur des décisions.
Ouais.
Faut être reconnu comme des professionnels, là. C'est là.
Des fois, c'est un peu ça le problème. Je pense que c'est Alex qui avait dit ça. C'est beaucoup du monde qui ne savent pas de quoi qu'ils parlent, qui nous impose ces réglementations-là.
Mmh. Oui, t'as absolument raison. Puis il y a un terme que j'utilise, c'est que nous, les producteurs, c'est qu'on habite le territoire. Bien souvent, on nous fait porter le chapeau et dire « Ah, il occupe le territoire. » Occuper, c'est comme juste en attendant. Quand tu habites, là, c'est que tu crées de la richesse. Parce que la terre agricole que moi, je veux transférer à mon garçon, mais je veux qu'elle soit en santé. Là. Puis même en ça, si je veux qu'elle soit productive, il faut que je continue, puis mes animaux aussi. Mm-hmm. Puis habiter la terre, là, mais c'est au niveau de la communauté. Là. Ça, c'est, nous, vendredi, avec le gros coup d'eau, là, on a eu plein de monde qui a appelé chez nous parce qu'on est collé sur les voisins qui avaient besoin d'eau parce qu'on a manqué d'eau. En plus d'avoir une pluie diluvienne, on manquait d'eau pour les animaux.
C'est ironique.
Puis des gens là, viennent nous voir. C'est comme un contact direct là, parce que la ferme est là. Puis ça fait des années qu'ils voient le nom et qu'ils nous connaissent. Là. Mais là, ils viennent voir pour des pompes, peu importe. Là, c'est là, on habite le territoire, là, puis on crée le paysage, puis les gens, ils trouvent ça beau, là, tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Les gens, tu sais, voient le maïs, voient le soya, voient les autres. Quand tu leur expliques ça, puis là, tu sais, ils sont contents de voir ça, puis que tu leur expliques, là. Mais en même temps, c'est ça, c'est ce côté-là, je pense, au niveau du gouvernement. À ta question, on peut plus laisser les gouvernements légiférer sur des perceptions. Il faut légiférer, mais il faut former. Quand est-ce qu'on va avoir des cours là, au niveau de l'éducation en nos écoles sur l'agriculture, puis l'agroalimentaire, puis la priorité nationale? Qu'on ramène ça et dire, regardez, là, c'est les gens qui nous nourrissent. Là. Ça, c'est une base. Là.
Que ça revienne aux écoles primaires, secondaires, qu'est-ce que c'est l'agriculture?
Absolument. Je pense que c'est une des demandes qu'on a faites aussi. Puis par rapport aux produits qu'on fait, il y a un côté de la santé aussi, là, avec les produits qu'on consomme, parce qu'on a des exigences ici, c'est bien correct. Mais en même temps, il faut arrêter de faire entrer des autres produits qui n'ont pas les mêmes exigences, puis qui arrivent avec des prix plus bas, puis qu'on laisse aller parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes sociétales. Que ce soit au niveau des travailleurs, etc.
C'est juste dumping, puis...
C'est ça. Je vais terminer là-dessus, là. Il y a un mot, là.
C'est bien correct.
Ben, quand je dis « je termine », ce point-là. Mais, regardez, là, ça prend de la cohérence. Ouais. La cohérence, il faut qu'elle soit là face au gouvernement aussi. Si le gouvernement, là, est fier des producteurs, puis il dit « oui, quand vous êtes professionnel, ben, regarde ». Au niveau le côté légiste, tout ça, les règlements, ben, il faut faire en sorte que c'est ça. Puis on reconnaît. Puis ça va donner un signal à la population. Non, les producteurs, regarde, ils savent qu'est-ce qu'ils font. On leur a mis des objectifs. Je pense que les objectifs, vous les voyez, là. On parle de changement climatique, tout ça. Mais il faut avoir cette cohérence-là. Là. C'est parce que nous autres, sinon, on s'y perd. Là. Ça, le monde municipal nous demande quelque chose. Là, une contrainte, après ça, j'ai le provincial, j'ai le fédéral, où c'est que ça va arrêter, là? Mm. Puis pourtant, on me dit que quand je me suis formé, ben, c'était comme ça, il fallait faire l'agriculture, tu sais. Fait que je pense que c'est l'aspect d'incohérence, c'est ça qui crée la frustration. Deux poids, deux mesures aussi, par rapport à d'autres secteurs, mais là, je rentrais pas dans ces dossiers-là, mais il y a d'autres secteurs, tu sais, c'est pas les mêmes choses. On les en laisse pas mal aller comparativement à l'agriculture. C'est comme on est surveillé 24 heures sur 24 avec des cartes satellites. Là.
Ouais. Non, mais tu sais, au début de la saison, nous autres, on a reçu Mathieu Rouleau de École au champ. Le programme, il est tout monté, il est déjà tout fait pour implanter dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, pour parler de l'agriculture, pour que les jeunes y apprennent c'est quoi, qui se reconnectent avec l'agriculture. Puis je le disais quand on a reçu Mathieu, justement, je disais, ce monde-là, ils vont grandir, puis à un moment donné, ils vont s'impliquer dans n'importe quel organisme ou même devenir, c'est s'en aller vers le gouvernement, mais la personne qui est consciente de ce qui se passe dans l'agriculture, une fois qu'elle est rendue au gouvernement, ben, elle va savoir qu'est-ce qui se passe pour vrai, puis ça va être différent rendu là, tu sais, elle va dire, mais non, on peut pas faire ça de même, parce qu'il y a telle contrainte, il y a telle affaire, fait que...
Je pense dans les zones humides, tout ça, tu sais, là. Quand on dit que les gens qui habitent le territoire, ils savent comment ça se passe. Les gens adaptent le pratique agricole, mais quand on arrive à rechuter et qu'on dit non, vous allez vous tasser, puis tu sais, ils en ont vu d'autres, là.
Ouais.
Ça qu'il faut les mettre en contribution. Pour ça, c'est intéressant, le laboratoire vivant par rapport à ça, entre autres, ça met qu'on reconnaît que le producteur, il y a une expertise, puis on s'en sert au même niveau qu'un chercheur, qu'un conseiller. Ça que ça, c'est. Ça, c'est pour ça que nos producteurs aiment ça travailler avec ça.
Mm-hmm. Vraiment.
On a nommé tout à l'heure quelques événements marquants dans l'histoire de l'UPA. Peux-tu nous en nommer d'autres qui ont été marquants?
C'est sûr que il y a la création de la financière agricole aussi, qui font parler d'un 1998 de mémoire, ça que ça aussi, c'est créé de se créer un outil, entre autres. Parce que si on regarde par rapport aux autres provinces, il n'y a peut-être pas cet outil-là. Malgré qu'à l'occasion, avec la financière, qu'on dit qu'il y a des choses à actualiser, mais il reste quand même, il faut se le dire, t'sais, on est chanceux d'avoir un outil comme ça. Mais ça revient à la base, t'sais, là, c'est que si on envoie de l'argent là, puis qu'on envoie plus d'argent là pour soutenir et actualiser les programmes, ça va faire de la job. C'est le défi, il est là. Si t'as moins de 1% du budget de la balle, puis là-dedans, ben c'est de l'argent qui va aux financières, c'est de l'argent qui va aussi pour le remboursement des taxes foncières. Là. Faut jamais oublier ça. Là.
Ouais.
Ça, quand on parle de 1,2 milliard là, qui est envoyé, ben c'est la financière, c'est taxes foncières qui représentent le remboursement à peu près à 230 millions, là. Fait que déjà là, juste en partant, ça part. Puis après ça, tu as les écoles, les formations, tout ça. Tout est là-dedans, la régie des marchés agricoles, tout ça. Ça fait que financière, oui, c'est un outil. Je pense que oui, on doit être fier. Il y a-tu des choses à améliorer? Je pense que les gens sont conscients. Je connais quand même les gens qui travaillent là puis ils veulent améliorer les choses. Mais il faut être capable qu'on leur donne les moyens aussi. Que ça soit ressources humaines ou ressources financières, c'est pour ça qu'il faut être capable d'augmenter le budget. Tout comme aussi au niveau du MAPAC. Là. Ça que c'est, moi, je dirais que dans les autres choses, là, je pense que c'est un des éléments qui était là. Puis après ça, il y a l'assurance stabilisation aussi qui est née par rapport au niveau du revenu agricole. Ça aussi, c'était quelque chose qui était instauré. C'était des demandes au niveau de l'UPA dans le temps de stabiliser un revenu. Encore là, on arrive, puis là, on parle des productions, exemple, dans le bovin, dans les céréales, mm-hmm. dans le porc, au vin aussi. Bien, il faut trouver une façon de faire pour actualiser ces programmes-là parce que c'était là pour soutenir puis pérenniser les entreprises agricoles. Puis dans des cas, j'étais avec les producteurs bovins puis les producteurs vache-veau, on voyait qu'il y avait une diminution. Dans le ovin aussi, il y a un enjeu qui est là. C'est là qu'on se dit, mais le programme, il faut qu'il soit actualisé à la réalité qu'on vit présentement. Là. Ça que je pense qu'il y a un défi de ces outils-là, de les actualiser. Mais bien souvent, on ne les actualise pas parce que ça va coûter plus de sous. Et ouais. S'ils n'ont pas le budget, ben c'est ça la problématique.
Ouais. Tu as parlé tantôt un peu d'éducation, d'éduquer les gens, de publicité. Prochainement, on va avoir les portes ouvertes des fermes au Québec. C'est quoi l'importance de ça?
C'est absolument important. Parce qu'avant ça, les gens, bien souvent, dans leur parenté, il y avait soit un oncle ou une tante, puis qui est en agriculture, puis là, on saute une couple de générations. Ça, ouais. Plus que jamais, c'est important de valoriser notre métier. Ça, que cette année, c'est le 8 septembre, il va y avoir 55 fermes. Puis vous connaissez ça, au niveau des fermes, on ne peut pas rentrer comme on veut partout. Ouais. Ça, que là, des fermes qu'on va rentrer, c'est des fermes qu'habituellement, qu'on ne va pas toutes visiter. Mm-hmm. Ça, qu'il faut continuer. Il faut continuer à valoriser, à expliquer notre métier, entre autres, les défis, les enjeux, les produits, où c'est qu'on fait. Tout aussi la collaboration qu'on a aussi avec les partenaires. Puis à ça, ben cette année, on a gagné un prix avec notre application Mangeons Local. L'application Mangeons Local, c'est géo-référencé, c'est plus de 1600 points de vente ou de ferme. Il y a toute la petite histoire aussi des entreprises. Ça permet beaucoup parce que c'est un prix qu'on a eu sur le gala Dux, entre autres, qui nous a remis ce prix-là cette année. Puis ça fait du chemin parce qu'on a rentré aussi des micro-brassés qui utilisaient l'âge brescard. On a rentré des restaurants qui prenaient 50% et plus. Ça que je pense que c'est intéressant, il faut continuer. Puis quand je parle de projet de société, là, ben c'est ça, là, c'est comment qu'on peut aller les chercher. On parle beaucoup de système alimentaire territorial, les SAT qu'on parle. On parle de plus en plus de ça, des marchés de proximité, nos marchés publics. On vient de sortir de la semaine des marchés publics. Il y a une croissance qui est là. Faut tout amener ces outils-là pour valoriser notre production agricole puis la transformation. Puis on est chanceux ici au Québec, on transforme quand même beaucoup de choses. Si je compare à d'autres provinces de l'Ouest, ceux qui ont des grains et tout ça, mais ils transforment moins. Mais ici, au Québec, on transforme beaucoup. Ça, la valorisation, c'est important. Puis tantôt, ça, vous l'avez mentionné aussi, l'éducation. Mm-hmm. L'éducation au niveau des écoles. On travaille avec Jean-François Archambault aussi, qui est là pour la tablée des chefs avec les écoles. Ça aussi, il y a des choses aussi qu'on travaille avec lui pour faire connaître, parce que oui, les produits, mais il faut que les gens aussi cuisinent. Ça aussi, je pense qu'il y a de l'intérêt à avoir un bon partenariat avec tout le monde.
Vraiment. Non, c'est... Puis c'est de l'implication là, pour les fermes qui reçoivent. Là. Mm-hmm. Les portes ouvertes, là, c'est une semaine de préparation, ah ouais. Eux autres, là, c'est, puis même des fois plus, là, mais c'est une grosse semaine avant de recevoir le monde. Là, moi, je leur lève mon chapeau, là, ceux qui préparent ça, là, parce que une étable à vache, là, bon, il y a le côté biosécurité qui est très important, puis hey, juste laver l'étable, préparer l'extérieur, le parking. Là, il va-tu mouiller, il va-tu pas mouiller, c'est quelque chose.
Toutes les bénévoles aussi qu'il faut qu'ils aident les producteurs, parce que quand tu reçois plusieurs personnes. Puis d'ailleurs, cette année, qu'est-ce qu'on fait de spécial? C'est qu'il va y avoir des fermes proches, deux fermes de, proches dans Montréal.
Okay.
Puis deux fermes dans Québec aussi, le côté urbain, parce qu'on on veut amener les gens du côté urbain aussi, leur expliquer là-dessus, parce que des fois, les gens se déplacent un peu moins. Ouais. C'est qu'en faisant ça, ben on va chercher une clientèle aussi qu'on doit expliquer. Là. Puis je dois mentionner aussi, ça parce qu'on disait les portes ouvertes, c'est intéressant, mais il y a plusieurs fédérations aussi qui font des petites chroniques le vrai du faux, le faux du vrai, tu sais, là. C'est que les gens expliquent, je sais, dans le bovin, ils font ça pour expliquer aux gens, tu sais, là, la façon que le bœuf est produit. D'ailleurs, on voit des annonces, là, comment que le bœuf est fait ici. C'est que je pense de plus en plus, il faut être conscient qu'il faut faire la publicité de ce côté-là. Puis on travaille très fort.
Ouais, ben on a parti ça fort avec Martin Caron. On a parlé de pas mal de sujets. On va faire deux parties avec Martin Caron parce qu'on a discuté avec lui pendant 3 heures de temps. On va s'aligner, nous autres, vers notre segment Patreon. Donc, comme à chaque fin d'épisode, on veut remercier nos partenaires, les équipements FANEF, les équipements Lapierre. On veut remercier aussi Rollback. Si vous voulez vous procurer du linge à l'effigie de Fondrant, allez sur le site de Rollback. Il y a une section faite pour Fondrant, avoir du beau linge qu'on a en ce moment, pour l'automne qui s'en vient, avoir des beaux cotons bâtés. Sinon, ben aussi, il y a pour notre bière, la bière Fondrant, si vous voulez vous en procurer, allez chez Benjamin à la récolte des cantons à Bromont sur la 139. Une super de bonne bière, toujours disponible. Puis sinon, ben je veux vous remercier, vous, les auditeurs, d'être présents à chaque épisode, d'écouter, de partager, de commenter, d'aimer. De vous abonner aussi, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour nous autres, puis en tout cas, on veut vous remercier d'être là épisode après épisode. Je veux remercier le monde au studio aussi, on le fait pas assez souvent, je trouve, mais je veux remercier ma sœur Marianne qui est en arrière des caméras, qui s'occupe du montage. Je veux remercier les gars aussi, Dan, Martin, Alex, qui viennent animer avec moi pour mettre de la vie dans ce podcast-là. Je veux remercier tous les invités qu'on a eus. Je vais prendre le temps de dire que c'est vraiment agréable. Le monde, ils participent, ils veulent venir au podcast. Et bon, regardez, Martin Caron, il voulait vraiment venir ici. Il voulait venir au studio, il voulait venir passer du temps avec nous autres. Donc, l'épisode se poursuit pour nos membres Be a Farmer. Si vous êtes intéressé de vous inscrire, devenir membre sur notre Patreon, nous supporter, ça va nous faire vraiment chaud au cœur. Il y a du contenu exclusif à chaque épisode. C'est sur le site Patreon. Vous écrivez Patreon/Fondrant. Vous allez tomber tout de suite sur notre page. Ça va être c'est facile à suivre. Puis vous allez avoir droit à du contenu exclusif. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Puis on se dit à la prochaine.
Fait que bienvenue au Patreon, Be a Farmer. On va continuer avec Martin.
Diviser le monopole syndical de l'UPA, tu sais, ça serait bénéfique pour l'agriculture puis tout.
Qu'est-ce qu'on a gagné à se diviser ensemble? C'est là, bien souvent, on dit « Ah, vous autres, l'UPA!
Ouais. »
Puis moi, je dis tout le temps « OK, mais là, vous pensez que c'est juste moi, l'UPA? »
Il y a des petits producteurs dans le maraîcher biologique qui sont très spécialisés, qui ne se reconnaissent pas dans l'UPA.
Y aurait-tu place à une restructuration pour concentrer ça, je sais pas?
Oui, non, mais c'est... Je ris un peu parce que c'est sûr que je me fais dire souvent ça. Parce que moi je vais le dire pour moi, là, mais si j'avais des jeunes enfants, là, puis avec le taux d'implication que j'ai là, je suis pas sûr que mon épouse et mes enfants, ça serait là, encore chez nous. Là.